Ce qui est mentionné dans le lectionnaire pour ce matin, pour la prédication, c'est Jean chapitre 10, versets 11 à 18, bien sûr. Par contre, je vous propose de commencer la lecture à partir même du verset 7. Et je vais vous expliquer pourquoi j'avais changé un peu le découpage textuel. Donc, Jean chapitre 10, versets 7 à 18. Au nom de Jésus. Jésus dit encore, « Je vous le déclare, c'est la vérité, je suis la porte de l'enclos des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. » Il pourra entrer et sortir, et il trouvera sa nourriture. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. L'homme qui ne travaille que pour de l'argent, qui n'est pas le berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, ils abandonnent les brebis et s'enfuient quand ils voient venir le loup, de sorte que le loup s'empare des brebis et les disperse. Ils s'enfuient parce qu'ils ne travaillent pas, ils ne travaillent que pour de l'argent et ne se soucient pas des brebis. Je suis le bon berger, de même que le Père me connaît et que je connais le Père. De même, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Je dois aussi les conduire. Elles écouteront ma voix et elles deviendront un seul troupeau avec un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de le recevoir à nouveau. Personne ne prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. C'est là ce que mon Père m'a ordonné de faire. Amen. Systématiquement, tous les prédicateurs qui ont prêché ce texte, moi y compris, se sont tous tout de suite braqués sur le titre « Le bon berger » qui est écrit dans l'Évangile. Tellement la figure du bon berger est assez imposante que nous n'avons pas eu tellement le temps de voir d'autres choses. Nous n'avons pas fait tellement attention à un détail qui, pour la première fois, en tout cas pour moi, a attiré mon attention. Ce détail, c'est le mot « enclos ». Il a une grande importance qui se complète avec le rôle du bon berger. Le bon berger ne peut pas effectuer et assumer sa tâche s'il n'a pas un bon enclos. Parce que les brebis seront éparpillées partout et il ne pourra pas prendre soin. Et si vous lisez par exemple le livre d'Ézéchiel, quand Dieu se compare à un bon berger, il regarde, il analyse chaque brebis et comment il le fait ? Dans l'enclos. Éparpillé, il ne peut pas le faire. Donc, un bon berger sans un bon enclos ne peut pas assumer sa responsabilité. C'est pour cette raison que j'ai choisi de lire à partir du verset 7 pour que ce bouquet soit bien fait. Donc, le lectionnaire a fait son découpage textuel à partir du verset 11. Or, toutes les versions de la Bible qui parlent du bon berger, comme je dis, parlent à partir du verset 7. Et donc, si on tient compte de cette remarque, nous pouvons constater que pour introduire son enseignement sur la thématique du bon berger, Jean, il commence à dire que Jésus est la porte par là où les moutons doivent entrer. Cette porte-là est la porte de l'enclos qui est mentionné au verset 16 dans notre texte de ce matin. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Cela signifie quoi? Cela veut dire que la notion du bon berger est liée avec son identité d'enclos, de porte de l'enclos, pardon. Et donc, si nous analysons un peu plus le contenu du texte, en se basant à partir de ces deux points cruciaux, le rôle du bon berger, c'est de sécuriser les brebis, les mettre dans un lieu sûr et de pouvoir les prendre soin. Donc, l'enclos est synonyme de sécurité. L'enclos est synonyme de sécurisation, mais aussi d'abondance. Car il est dit au verset 9, « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, c'est-à-dire il sera protégé, il entrera, il sortira, et il trouvera pâturage. » Cette deuxième partie-là, on l'a un peu sous-estimée. Sécurité, abondance. En d'autres termes, les brebis qui sont sous sa protection sont en de bonnes mains, eux seront bien traités, recevront les meilleurs traitements possibles. Une petite remarque, le mot « enclos », donc rappelez-vous, ceux qui sont dans l'enclos seront bien traités, aura de la nourriture en abondance. Le mot « enclos », dans le livre de la Genèse, actuellement on fait l'étude biblique sur la Genèse, a été employé pour désigner le jardin d'Éden. Oui, jardin veut dire « enclos » en hébreu. Donc, n'oublions pas que ce paradis du jardin d'Éden était un jardin et non un lieu sauvage, chers amis. Souvent, on a une idée fausse d'un paradis, comme si c'était dans un lieu sauvage, magnifique. Non! Le jardin d'Éden est un jardin avec un enclos. Souvent, on a représenté ce paradis, ce jardin d'Éden, dans des tracts, surtout les témoins de Jéhovah sont très forts là-dessus. Des images magnifiques, comme s'ils étaient dans une forêt. Mais non, c'était un jardin. Et en sachant que le livre de la Genèse a été écrit pendant la période de l'exil en Babylone, et donc le modèle ou la source d'inspiration de l'auteur pour décrire la beauté de ce lieu était les jardins des Babyloniens, qui faisaient partie des sept merveilles du monde. Des jardins pris au soin. Il y avait un jardinier qui s'occupait. Ça ne poussait pas tout seul. De ce fait, le jardin d'Éden était un endroit soigné, choyé, clôturé. Et il y avait un grand jardinier dedans. C'est Yahvé, le Créateur. Et si Jésus dit qu'il est le bon berger, cela sous-entend aussi qu'il est Dieu et qu'il assure ce jardin de la vie éternelle, une vie en abondance pour ses brebis. En dehors de cet enclos, il y a la mort. D'ailleurs, quand le couple est sorti du jardin, ils ont connu ce que c'est que la mort, la faim, la maladie, les crimes. Deuxième point, toujours en lien avec l'enclos, il y a une parole de Jésus qui fait réfléchir là-dessus. Il ne se contente pas seulement de prendre soin de ceux qui sont dans l'enclos. Voilà ce que font tous les bergers classiques. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de Jésus par rapport aux autres bergers? C'est pour cela qu'on appelle le bon berger. Il n'est pas seulement le berger, mais il est le bon, c'est-à-dire il est le seul à avoir cette particularité. C'est la raison de sa qualification de bon berger. C'est qu'il a comme projet d'élargir l'enclos. Tous les bergers ne font pas ça, le bon berger. Ils font juste pour sécuriser, bien garder, et c'est tout. Mais lui, ça ne suffit pas de rendre en sécurité les brebis. Ensuite, il donne à manger. Mais ensuite, il dit, je dois l'élargir. Au verset 16, j'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Cela aussi, il faut. Il ne dit pas peut-être. C'est pas une, c'est pas facultatif, c'est obligatoire. Il faut que je les amène ici. Alors, avant que je les amène, il faut que j'élargisse mon enclos. C'est pas quand les brebis sont là que là, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Avant que les brebis arrivent, il faut élargir. Et ça, ça m'a parlé personnellement, en tout cas dans la situation où nous vivons. L'enclos du Seigneur, chers amis, est ouvert et non fermé. Dans le sens où nous devrions élargir notre champ de vision. Ne soyons pas limités à ce que nous avons déjà. Pensons déjà à élargir ce que nous pourrions avoir demain. Anticipez comme un bon berger. Il est vrai que nous sommes limités aujourd'hui en matière de nombre pour venir au temple, au culte, assister à nos activités sur Zoom. Mais nous sommes tous ici présents témoins que plus nous avons été limités dans notre possibilité de faire des cultes, plus le champ du Seigneur s'est élargi. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, plus on nous a restreints, plus la parole de Dieu s'est répandue. Voilà la parole de Dieu, on ne peut pas l'emprisonner. On ne peut pas le mettre dans une boîte. La preuve, même ceux qui nous suivent en catéchisme d'adultes, nous avons 5 candidats qui viennent de l'extérieur et qui vont se faire baptiser chez nous, qui ne sont pas membres de notre paroisse. Voilà le miracle de la parole de Dieu. Alors si on avait espéré attendre quelqu'un qui va se faire baptiser là, dans notre petit enclos, personne ne viendrait. Je dois les faire venir dans cet enclos, dit le Seigneur, et c'est lui qui va le faire. Il y a peut-être un paradoxe, mais dans l'histoire de l'Église, ça a toujours été ainsi. Il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil, comme on dit. Il est vrai que nous vivons dans la... Nous vivons plus la période de la persécution comme au temps de l'Église primitive, mais nous pouvons nous en inspirer avec ce que nous vivons actuellement. Rappelez-vous, lorsque les premiers chrétiens étaient pressés de partout, beaucoup se sont enfouis, beaucoup se sont éparpillés dans le monde helléniste, c'est-à-dire dans le milieu grec, et leur éparpillement a permis à Paul, plus tard, de construire les églises. Vous savez, Paul, ce n'est pas un superman. Si Paul a pu construire une communauté à Rome, à Corinthe, à Éphèse, c'est grâce à ces gens qui ont dû fuir. Et c'était les annexes de l'Église qui étaient éparpillées. Et une fois que Paul est parti en mission, il n'a fait que les rassembler. Et de là, le noyau s'est formé, l'Église aujourd'hui. Voilà le plan de Dieu qu'on ne sait même pas imaginer. On pense que l'Église était foutue, on pensait que l'Église était morte. Non. Plus on l'a écrasée, plus elle s'est éparpillée. Ça fait partie de l'histoire de l'Église, tout ça. D'ailleurs, nous connaissons aussi l'histoire de la Réforme. Plus les protestants étaient persécutés, plus toute l'Europe a connu la Réforme. Sans la persécution, je pense que le boulevard d'Herbart n'aurait pas pu avoir. Sans la persécution, d'autres églises en Europe n'auront pas pu voir le jour une église protestante. Et ainsi de suite. Le monde est fait ainsi. Donc, inspirons-nous de cet héritage de l'Église pour l'avenir. Ne nous lamentons pas sur ce qu'on nous impose, mais regardons un autre regard ce que Dieu peut nous ouvrir comme opportunité. Ne pleurons pas sur le passé qui, oui, forcément le passé est toujours meilleur, comme on dit, qui peut-être ne sera plus possible comme avant, plus possible comme au temps de nos parents ou à notre époque même. Au contraire, élargissons le champ d'action de la parole. Cela implique aussi une autre approche d'évangélisation, ou je dirais plutôt un retour à ce que l'Église de tous les débuts avons fait avant nous. Qu'est-ce que l'Église au tout début a fait? Il n'y a pas de choses extraordinaires. Ils invitaient leurs amis, leurs connaissances, dans les réunions organisées clandestines chez eux. Voilà comment l'Église a commencé. Ils s'invitaient, ils mettaient la marque du poisson Lictus devant la porte, et c'était un code pour les persécuter. Quand tu voyais cette marque de poisson, ça veut dire que ce soir, il y aura une réunion de prière dans cette maison. C'était le code. Voilà comment ils ont commencé leur prière, leur église, leur communauté. Alors, pour nous aujourd'hui, vous qui nous suivez, et je m'adresse maintenant à ceux qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube, ne soyez pas juste des consommateurs, soyez des évangélistes sur les réseaux. Partagez les liens que vous avez reçus. Il suffit d'un seul clic et vous pourrez atteindre plus de 1000 personnes. Vous savez que Dieu, il sait que nous sommes des fainéants. Dieu sait que nous allons chercher des excuses. « Ah oui, mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas le temps, je travaille dur. » Ok, il te suffit de cliquer. De cliquer, de partager, et tu peux aller dans le monde entier grâce à ça. Vous savez, Dieu a de l'humour. Et il accepte notre faiblesse, mais il s'adapte aussi avec notre faiblesse. Et il veut utiliser notre faiblesse pour devenir une force. Donc, ne cherchons pas midi à 14h, comme on dit. Il suffit de peu de choses et l'évangile est répandu. Vous savez, actuellement, malgré l'aridité du cœur des hommes, je constate qu'il y a une forte demande de spiritualité dans la société. Les gens cherchent de la spiritualité. Ça peut être une spiritualité occulte, mais il y a une demande. C'est impressionnant. Mais le problème, c'est que la plupart de l'offre que nos amis voient n'offre pas une nourriture équilibrée, saine, qui permet de les faire grandir spirituellement. La consigne de Jésus est assez claire. Ceux-là aussi, il faut que je les emmène dans l'enclos. Tu as reçu l'ordre aujourd'hui. Es-tu prêt à élargir l'enclos de Jésus-Christ? Parce qu'il veut prendre soin de ces gens-là. En dehors de l'enclos, la sécurité n'est pas assurée. L'approvisionnement n'est pas garanti. Et dans les évangiles, il est dit que Jésus est ému en voyant la foule qui était livrée à elle-même, car à ses yeux, il n'avait pas de berger. Il y a tellement de brebis égarées qui n'ont pas de berger dans ce monde. C'est-à-dire, il y a tellement de gens qui sont livrés à eux-mêmes et qui ont besoin d'un bienfaiteur qui s'appelle Jésus-Christ. C'est à toi que Jésus s'adresse ce matin. Prends ta responsabilité. Ne te plains pas. Fais ce que Jésus te demande. Et à notre tour, est-ce que cela ne nous émeut pas de voir les personnes qui se cherchent, qui ont tellement besoin d'un guide? Est-ce que ça ne te touche pas au plus profond de toi-même? Rien que de sortir dehors de ta maison et tu les vois, ces gens-là. Il ne faut pas aller loin. « Va, dit le Seigneur, et amène-les aussi dans mon enclos. »